Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. En Mauritanie, le blogueur mauritanien Mohamed Cheikh Oulmhetir, maintenu en détention au-delà de sa peine après une condamnation pour un article jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam, a été remis en liberté à l'aube le lundi 29 juillet. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué ce mardi l'ONG de défense des journalistes Reporters sans frontières. Information confirmée à l'AFP par maître Fatimata Mbaye, l'avocate du blogueur, qui souligne que Mohamed Cheikh Oulmhetir, 36 ans, détenu depuis janvier 2014, a été libéré hier du lieu où il était en résidence surveillée, mais qu'il n'est pas entièrement libre de ses mouvements. Madame Mbaye ajoute que le blogueur a quitté la capitale Nouakchott. Politique en Côte d'Ivoire, la première rencontre depuis 10 ans entre deux anciens ennemis, les ex-présidents ivoiriens Henri Conan-Bédié et Laurent Gbagbo, lundi à Bruxelles, annonce sans doute la création d'un front contre le camp de l'actuel président Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2020 dans le pays. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Monsieur Bédié et Monsieur Gbagbo, qui attend en Belgique une décision de la Cour pénale internationale, se sont rencontrés pour la première fois depuis 2010. Dans le cadre de l'organisation d'élections justes, transparentes et équitables en 2020, les deux hommes ont appelé le gouvernement à procéder à une réforme profonde de la commission électorale indépendante, la CEI, afin qu'elle puisse contribuer significativement à la consolidation de la paix sociale en Côte d'Ivoire. L'actuelle réforme de la CEI, qui doit être entérinée dans les prochains jours par l'Assemblée nationale, est décriée par l'opposition qui juge qu'elle ne présente pas de garantie d'indépendance suffisante. La crédibilité de la CEI est jugée cruciale en vue de la présidentielle de 2020 qui s'annonce tendue. Du côté du pouvoir, le porte-parole du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Kobena Kwasi Adjumani, a qualifié cette rencontre Bédié Gbagbo de non-événement.
Au Nigeria, Ibrahim Zakzaki, leader de l'organisation chiite interdite Mouvement islamique du Nigeria et incarcéré depuis décembre 2015, ne s'est pas présenté au tribunal lundi pour des raisons de santé. Son procès a été une nouvelle fois ajourné à la semaine prochaine. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
À sa dernière audience, le chef du mouvement islamique du Nigeria ne pouvait même pas monter les marches de la cour, a déclaré son avocat Femi Falana, indiquant que le juge était informé de son absence et avait donné son accord à un report du procès. Les avocats d'Ibrahim Zakzaki demandent sa libération sous caution pour qu'il puisse aller se faire soigner en Inde. Pas question selon le procureur Dari Bayero, qui estime que le Nigeria a des hôpitaux où il peut se faire soigner. La cour jugera lundi prochain s'il peut partir ou être soigné dans les hôpitaux de ce pays, a-t-il précisé. Nous sommes mécontents de savoir que le procès a été ajourné compte tenu de la santé fragile du cheikh, a confié Ibrahim Moussa, porte-parole du mouvement. La présidence nigériane a annoncé dimanche l'interdiction totale pour terrorisme et activité illégale du mouvement chiite radical après une série de manifestations meurtrières dans la capitale Abuja.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Contestation au Soudan. Les négociations prévues aujourd'hui entre leaders du mouvement de protestation et généraux au pouvoir n'auront pas lieu. Les négociateurs de la contestation étant restés dans la ville d'Al Obeid, dans le centre du pays, où 5 lycéens ont été tués lors d'une manifestation hier contre les pénuries de pain et de carburant. Les manifestants accusent les redoutés paramilitaires des forces de soutien rapide et RSF, dirigés par Mohamed Hamdan Daglo, le numéro 2 du conseil militaire à la tête du pays, d'avoir tué les 5 lycéens. Pour sa part, l'ONU a réclamé aujourd'hui une enquête sur cet incident, avant toute nouvelle discussion. Le chef du conseil militaire au pouvoir a lui aussi condamné la tuerie. Ce qui s'est passé à l'Obeid est triste, a déclaré le général Abdel Fattah Al-Burhan, cité par la télévision, en précisant que tuer des civils pacifiques est un crime inacceptable qui ne doit pas rester impuni. République démocratique du Congo, un accord a été trouvé pour la composition du gouvernement. Le Front commun pour le Congo de l'ex-président Joseph Kabila et la coalition CAP pour le changement de son successeur Félix Tshisekedi l'ont annoncé tard dans la nuit de lundi à Kinshasa. Attendu depuis 6 mois, le premier gouvernement de Félix Tshisekedi sera composé de 65 membres en majorité issus de la plateforme politique de M. Kabila. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Hormis le Premier ministre, le futur gouvernement de la République démocratique du Congo comprendra 48 ministres et 17 vice-ministres, dont 23 pour cas pour les changements du président Félix Tshisekedi et 42 pour le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila qui, majoritaire au Parlement, se taille également la part du lion dans ce gouvernement. Ce résultat est le fruit des longues discussions entre les deux familles politiques qui, au lendemain de la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle, ont décidé de former une coalition pour gérer le pays ensemble durant ce quinquennat. Cet accord prévoit des principes devant guider le Premier ministre à former son gouvernement qu'il soumettra ensuite à la nomination du président de la République, a dit lors de la conférence de presse Nehemi Milania, le coordonnateur du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Un comité de suivi paritaire veillera au respect des dispositions prises par le négociateur, a-t-il conclu. Nommé depuis le 20 mai dernier, le Premier ministre Sylvestre Ilunga était présent à la conférence de presse mais ne s'est pas exprimé. Aucune annonce non plus n'a été faite sur la date de la publication du futur gouvernement. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Retour en Afrique de l'Ouest, au Bénin, le mariage des enfants est toujours une pratique courante. Pour combattre ce fléau, l'Association des femmes juristes du Bénin multiplie les campagnes de sensibilisation pour diminuer le taux des mariages forcés dans les zones reculées du pays. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dondé.
Cécile est âgée de 14 ans et elle a trouvé refuge auprès des sœurs salésiennes à Cotonou après avoir échappé à la stricte surveillance de son mari, âgé de 51 ans. Elle raconte sa mésaventure.
C'est mon oncle chez qui je vivais qui m'a donné en mariage à un de ses amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis réveillée dans une case sur une natte et c'est là que j'ai reconnu l'ami de mon oncle. Il m'a dit que je suis devenue sa femme et que mon oncle a déjà pris la dot. Il a dit pour sceller le mariage qu'il doit coucher avec moi. Je lui ai dit que je suis vierge, que je ne pourrais pas faire une chose pareille. Mais deux personnes m'ont immobilisé et il m'a violée. Pendant des jours, j'urinais du sang. Je pleurais tout le temps. Et c'est sa première femme qui m'a aidée à fuir de la maison.
De nombreuses jeunes filles sont ainsi données en mariage forcé à travers tout le Bénin, comme dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. Les chiffres sont assez révélateurs. 3 filles sur 10 sont mariées peu après leur premier mariage. 3,7 d'entre elles sont envoyées dans un domicile conjugal avant l'âge de 18 ans et souvent dans les campagnes lorsqu'on n'est pas marié. À 18 ans, on est considéré comme une vieille fille rejetée dans le village. Ghislaine Bokovo est commissaire de police, responsable de l'Office central des mineurs, de la famille et de la répression de la traite des êtres humains.
La sensibilisation a très duré. Il faut frapper, sanctionner pour montrer l'exemple. Je ne cesse de mener cette campagne, surtout dans les organes de sécurité pour demander à mes pères de combattre le phénomène dans cette dernière rigueur.
Même si la loi punit le mariage forcé au Bénin, plusieurs paramètres empêchent la répression et la pratique continue en toute impunité. Maître Marie-Élise Guédo de l'Association des femmes juristes.
Déjà, elle est la victime, mais elle te dira « je ne peux pas amener mes parents en justice ». Ça fait déjà une première difficulté. Nous, on ne peut pas se substituer à la fille pour saisir le parquet, par exemple, pour violence. De deux, dans les deux familles, c'est la loi du silence puisque ce sont les familles qui ont décidé du rapt de la fille et du mariage forcé. Personne n'en parle, donc personne ne peut dénoncer personne.
Face à ces difficultés pour faire respecter la loi, beaucoup estiment que pour combattre la pratique, il faut sensibiliser et associer les chefs religieux et coutumiers. Pour Chanceline Mevoanou, une web active. La pauvreté et la cupidité sont parmi les causes tenaces des mariages forcés.
C'est parce que la situation à la maison n'est pas très reluisante. La famille pense que quand on va donner cette fille à un homme, l'homme va mieux prendre soin d'elle et lui donner à manger. Mais
face à l'ampleur du phénomène, les artistes aussi sont mobilisés. Pour ceci, mais ambassadrice itinérante de l'UNICEF, le respect de la tradition ne saurait servir d'excuse à la violation des droits des enfants.
Une fille qui n'est pas encore en âge de garder une grossesse qui est donner en mariage, qui subit des rapports sexuels de force. Donc c'est une très belle cause et je suis prête et je me suis engagée dedans.
C'est donc une longue course d'obstacles, mais le Bénin espère venir à bout du mariage des enfants d'ici 2030. De Cotonou, Ginette Fleur a donné pour VOA Afrique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.